Chapitre 7. Je ne sais ce que vous avez, Rita, me dit Noël quelques jours plus tard. Je vous trouve pâle. Êtes-vous souffrante ?
Pas le moins du monde.
J'en voulais à mes joues qui révélaient malgré moi mes grands soucis, car je n'entendais parler de rien. Monsieur Saint-Audon avait-il renoncé à son projet ou attendait-il des renseignements ? Ou avait-il commis l'insigne imprudence de livrer mon nom ? Cette dernière supposition me rendait très malheureuse. Afin d'oublier mes inquiétudes, je lisais le soir avec acharnement, puisant à tort et à travers dans la bibliothèque de M. Dubarral. Mais ses ouvrages, généralement trop sérieux, m'endormaient. Noël me prêta quelques livres qui me donnèrent le cauchemar et me firent jeter de hauts cris. L'humanité, avec ses laideurs condensées dans un petit cadre, sans un souffle d'air pur, m'étouffait, et je n'en revenais pas qu'on choisit le lait pour vivre avec lui pendant 300 pages. Ce ramassis de laideurs ou d'impressions morbides n'était pas pour moi la vérité, car à côté d'un fumier, il y a la rose. Quand j'entre dans une cour de ferme, je vois la paille, du désordre souvent, des animaux peu poétiques qui se promènent et me font peur, mais sur les murs s'étendent des clématites sauvages et de grands sureaux fleuris cachent des décombres. Je contai mes impressions à Noël qui me répondit « Vous ne pouvez pas lire que des histoires de petites filles bien sages, Rita. » « Non, sans doute, mais j'ai toujours vu de braves gens autour de moi, des hommes que la crudité et la brutalité révoltaient. Donc ils existent. Pourquoi ne pas les peindre, ne pas entrer dans leur vie honnête ? Leurs sentiments, leurs idées, ne sont-ils pas aussi intéressants que ceux des Forbans Moreau ? Forbans Moreau est charmant, mais les auteurs ne peuvent pas toujours idéaliser. Ce n'est pas idéaliser que de peindre le réel honnête. Il faut les deux, puisque les deux existent. D'après mes dernières lectures, un seul existe pour ces singuliers esprits. Vous êtes d'un rococo inimaginable, me dit-elle en riant. J'accepte l'épithète, j'aime le rococo. Elle m'embrassa, c'était toujours la conclusion de nos discussions ou de nos échanges d'idées. Au fond, nous pensions de même, mais son éducation mondaine et ses grands 22 ans lui donnaient des aperçus et des tolérances inconnues de mon cerveau récalcitrant. Pour changer le cours de mes idées révoltées, elle m'apporta 2 livres des tarots. Mais en savourant ces auteurs subtils, colorés, artistes, d'une pensée pénétrante, je réfléchissais que, sur le terrain intellectuel, ils devraient logiquement dédaigner la femme, même instruite, s'il n'y avait chez elle la finesse naturelle et assimilatrice. Je me décourageais en lisant ces pages, écrites dans la véritable langue française, comme si, écrivain moi-même, je sentais, devant tant de talents, la lyre s'échapper de mes mains. « Comment vous satisfaire ?» s'écria Noël, très amusé. « Et qu'est-ce que cette jalousie déguisée, puisque vous n'êtes point écrivain ?»«
C'est que, si je l'étais, je voudrais la perfection. Ce n'est pas jalousie, mais noble ambition. »
Sous prétexte de me distraire, elle organisa une partie de campagne avec plusieurs amis et accompagnement de messieurs Saint-Audon et Baladier. Ce dernier, toujours malheureux par ma faute, se tenait moins à l'écart, acceptant chaque occasion de me rencontrer sans chercher lui-même ses rencontres. Je lui savais grand gré de son tact. Madame Féval donna rendez-vous à ses invités dans la vallée de Chevreuse, où la douceur du paysage, la rivière limpide, excitèrent l'admiration conventionnelle de Parisiens qui, en fait de paysage, n'aimaient que la rue de la Paix et le bois de Boulogne. L'un d'eux déclara qu'il redouterait d'habiter la campagne parce qu'on y était réveillé par les oiseaux. Ce génie portait la chemise molle, le col rabattu, le costume négligé des bains de mer, qui est vraiment le lait accompli. Nos amis, toujours élégants et soignés, dans une tenue de fantaisie, regardèrent avec grande surprise ce produit moderne qui redoutait le chant des oiseaux. « J'ai envie de le mettre aux prises avec René. » me dit Noël tout bas.
Bah, à quoi bon ? Monsieur Saint-Audon l'a jaugé.
C'est vrai, il ne daignera pas répondre, à moins que vous ne commenciez la bataille, Rita.
mais pendant le déjeuner servi sur l'herbe fraîche et fleurie, avec des moucherons qui tombaient dans les pâtés et les moustiques qui vous piquaient, je prenais la résolution de me tenir très coite. Quoique je ne fusse pas d'un naturel bavard, je me reprochais toujours de trop parler. Dans ces reproches, il entrait peut-être beaucoup d'amour-propre, car je craignais de dire des sottises. Les résolutions vacillent à tous les vents, chacun connaît cette vérité, surtout quand c'est un imbécile qui représente le vent. Le pauvre monsieur S. avait la manie de développer des lieux communs sur un ton d'oracle. Il prenait à lui seul la conversation et même patientait furieusement, si bien que lorsqu'il se mit à vanter toutes les laideurs à la mode, j'attaquais vigoureusement. « Ah, mademoiselle, me dit-il, vous n'êtes pas à la page. » « J'ai ouï dire, répondis-je tranquillement. « Oh, ouï dire, interrompit-il, c'est une locution de grand-mère, jeune et charmante comme vous l'êtes. » J'ai ouï dire, repris-je tenacement, c'est en effet mon aïeul qui parle, que le joli langage et la tenue sont des signes de distinction, ou plutôt sont la distinction elle-même. Saint-Audon et Baladier sourirent d'un air approbateur, et Madame Féval déclara « Vous exprimez nos idées, Rita. » Mais, continuai-je encouragé, le débraillé qui rend les hommes plus laids, mais pour les femmes, la nuque rasée, la cigarette, l'argot, l'affreux argot trivial, poids. Pourquoi se conduire en homme et en homme mal élevé qui plus est ? Rita, ne vous fâchez pas, me dit Noël en posant une main caressante sur mon bras. Je ne me fâche pas, mais je m'exaspère. Monsieur S., concerné, me dit « Mademoiselle, je ne suis pas mal élevée, je vous assure. » « Je ne pensais pas à vous, croyez-le bien, » dis-je, épouvanté, en m'apercevant de ma maladresse. « Ces idées sortent naturellement de ma tête sans que je m'en mêle. »« Elles sont miennes, » répéta Madame Féval, « mais ne visent aucune personnalité. » « Je crois, » reprit Monsieur S., toujours offensé, et fort légitimement, je dois l'avouer, « que Mademoiselle Vida Larmont est facilement nerveuse. » « Du tout, » répliqua Monsieur Baladier, « Mademoiselle Vida Larmont est seulement imbue des idées qui lui viennent d'une éducation bien française, celle qui est faite de mesure et de bon goût. »« Évidemment, » appuya Monsieur Saint-Audon. Avec ces deux gardes du corps, je n'avais rien à craindre, mais je regrettais de m'être mise en avant. « Vraiment, » disait je ne sais plus quel personnage, « c'est le diable de savoir tenir sa langue. » Baladier, très fin quand il s'y mettait, une coupe de champagne à la main, déclara avec onction « Nous avons 100 fois raison, quand nous soignons notre vêtement, que nous nous mettons nous-mêmes en valeur comme gens très civilisés, mais ce goût, nous devrions l'apporter à tout. Pourquoi ne pas ajuster élégamment notre morale et nos idées ? Le reste suivra. Voilà, dis-je ravi. Je m'étonnais de cette réflexion dont j'aurais cru la place ailleurs. Mais on ne connaît jamais les hommes, il faut des circonstances extraordinaires pour les dévoiler. Chacun émit son avis, qui fut à peu près unanime, chez les hommes du moins, car plusieurs femmes avaient subi l'atteinte de la hideuse épidémie des nuques rasées et m'exécraient subitement. Mais aussi qu'elle sottise de ne pas marcher avec les traditions de son pays, de sa race et du joli. Il ne s'agit pas de s'enliser dans la routine, de s'encrouter obstinément dans des habitudes qui ne cadrent plus avec la vie moderne, mais de conserver des qualités essentielles, d'accorder la grâce, la tenue, la finesse, avec des libertés devenues nécessaires. Monsieur Saint-Audon nous fit sur la matière un petit discours franc et bien composé. « Ce que je dis là n'est pas très neuf, » ajouta-t-il en riant, « mais on ne le répétera jamais assez, car tant de gens n'y pensent même pas. » Monsieur S. porta la main à sa cravate pour la remettre d'aplomb et donner plus de force à ses idées. Chacun, la fourchette en l'air, attendit avec gravité la réponse géniale. Ce sont là des opinions d'une autre époque. Il faut être de son temps. Dans le meilleur monde, on parle argot, on fait bon marché des vieux usages et des vieilles façons. Précisément, et c'est infiniment regrettable, répondit M. Saint-Audon d'un ton nonchalant, pendant que Baladier l'approuvait d'un signe de tête énergique. « Je m'étonne, dit Noël, que, avec le goût des vieux meubles passés à l'état de monomanie, on ne reprenne pas, dans ses paroles et dans sa mise, le bon ton des gens qui se sont assis sur ces sièges respectables. » Croyez-vous donc, mademoiselle, que ces gens-là avaient toujours bon ton ? Dit M. S. avec un petit sourire ironique. Non, peut-être. Cependant, il est acquis que nos vieux fauteuils ont eu la joie d'être témoins de beaucoup de grâce et du charme de l'urbanité. Si bien que je me demande, dit Mme Féval, si le mauvais ton d'alors ne serait pas le bon ton d'aujourd'hui. Ici, la conversation dévia. Elle avait ajouté pour moi au plaisir de cette journée. La douceur de l'air, la tranquille beauté du paysage, les idées que j'aimais, exprimées par des gens que j'aimais aussi, me laissaient une douceur dont la plénitude demeure dans l'esprit comme le souvenir d'une chose rare et délicieuse. Il est singulier que des faits plus importants s'effacent de la mémoire, tandis que des impressions harmonieuses laissent une trace qui reparaît au souffle passager d'une brise ou au murmure d'un feuillage. Mais, si des heures charmantes m'apprenaient à mieux connaître les hommes que je voyais souvent, elles ne m'apprenaient rien sur les décisions de M. Saint-Audon. J'avais espéré qu'il saisirait un moment pour s'approcher de moi et m'apprendre qu'il renonçait à l'affaire déplorable, mais sa pensée en était bien loin. Néanmoins, quelques jours après, j'eus les aperçus par une conversation qui eut lieu à table entre messieurs Dubarral et Baladier. « Eh bien, dit celui-ci, cette affaire des mines vous plaît-elle toujours ?»« Rien de nouveau, mais mon opinion ne s'est pas modifiée. » »« Le conseil d'administration a-t-il récolté de nouveaux noms ?»« Deux assez inconnus. De ce côté, j'ai eu quelques déceptions. Autrement, tout va bien. » Il me parut, en parlant de déception, que M. Dubarral posait sur moi un regard pointu comme une vrille, presque physiquement, j'en crus sentir la pointe. Je m'étouffai en avalant trop précipitamment des fraises, et, debout, mes jambes eussent certainement flageolé, car si M. Saint-Audon reculait, il était indubitable que ma démarche avait amené ce beau résultat. Mais une supposition ne ressemble à rien à une certitude, et Baladier se fut laissé écorcher tout vif plutôt que de prononcer le nom de son rival. Donc je sortis de table sans rien savoir, et, entré dans ma cellule, je travaillais avec découragement, quand on m'annonça Noël, qui, sachant M. Dubarral sorti, avait insisté pour me surprendre dans mon petit trou qu'elle n'avait encore jamais vu. Elle s'assit sur le tabouret, que je ne pouvais plus regarder sans voir Baladier et entendre l'aveu de son amour. « Quoi ? » me dit-elle consternée, « vous passez des journées entières dans cet infime cabinet ? Jamais je ne l'aurais cru si petit, petit. »« Je l'agrandis, » répondis-je avec un grand geste. « Et cette cour ? Elle est vaste, mais triste pour vous, Rita, plus que pour une autre. » Erreur, je m'échappe vers les nues quand il me plaît. Et vous me disiez être si bien installé, continua Noël en amicale colère. Je ne vois pas de nues, je vous assure. Il est vrai que je ne suis pas vous. Remarquez combien je suis tranquille et aucun de mes gestes n'est fatigant. Je n'ai qu'à étendre la main sans me déranger pour ouvrir ma porte et il en est de même pour la fenêtre. Une fois sorti, je peux me promener au milieu des somptuosités qui m'entourent, toujours sans parler des nues. Ma mère et moi, Rita, nous pensons qu'il est temps pour vous que les vacances arrivent. Vous irez voir des nues véritables. Sont-elles plus salutaires que les autres ? Mais enfin, vous avez raison. Seulement près de 10 semaines me séparent encore de cette bienheureuse rentrée dans la chaumière. En attendant, venez avec moi. René nous a donné rendez-vous à la salle Petit pour visiter une exposition. Mais je ne devais pas sortir. Je m'appliquais d'autant plus à satisfaire M. Dubarral par la régularité de mon travail que je me reconnaissais des torts secrets envers lui. Alors nous nous verrons ce soir. Après dîner, j'irai vous prendre et nous nous promènerons ensemble. Venez au-devant de moi. Le soir, j'appris que M. Saint-Audon avait manqué au rendez-vous. Il est occupé et préoccupé, me dit-elle, et nous le voyons plus irrégulièrement.
Pourquoi préoccupé ?
Question d'argent, je crois. Il hésite sur certains placements, disait-il à papa. En même temps, il voudrait gagner une grosse somme. Anomalie avec son caractère. Je la comprenais, moi, cette anomalie, en écoutant Noël, animée, me parler de lui avec un sentiment qu'elle n'avait encore jamais aussi bien exprimé. Déjà, je la voyais à l'hôtel sous ses voiles blancs. Toutefois, elle ne dit rien pour confirmer mon opinion intime, mais elle vanta le cœur chaud et généreux de son amie. Peut-être voyais-je M. Saint-Audon en beau, mais ses manières bienveillantes étaient, à mon sens, idéales. Dans la soirée, en écoutant Noël, les nobles qualités de M. Saint-Audon s'harmonisaient dans ma pensée avec la fraîche haleine de l'air et les beaux arbres frémissants. Je lui appliquais ce mot d'un écrivain. Il y a certainement une bonté exquise, une bienveillance prévenante dans cette qualité, la plus rare de toutes, une parfaite éducation. « Quelle soirée, Rita !» me dit Noël. « Je ne suis pas poète comme vous, mais vraiment, sous ces étoiles, tout parle au cœur et à l'âme. »«
Surtout au cœur, » pensais-je en regardant son joli visage, doucement éclairé par les rayons lunaires, et surtout illuminé par ce beau sourire si personnel. « Il est certain, dis-je, que les assimilations des pensées avec la nature ont un grand charme. »
« Vous les sentez vivement, vous, Rita. Vous parlez même souvent comme René. »«
C'est que, répliquai-je en riant, il a débrouillé des idées obscures qui n'étaient encore chez moi que des impressions. »«
Impressions ? Je ne crois pas. Vous avez de la lecture et vous êtes né sous une influence qui dirige naturellement l'esprit. »
Vous faites allusion à mon père, à son grand talent, à son âme d'artiste, dis-je avec émotion.
Sans doute, vous avez beaucoup de lui.
Et vous, cher, vous êtes la bonté même. Vous savez dire le mot qui fait plaisir. Vous encouragez sans flatter exagérément. Vous m'avez entouré d'affection quand j'étais si seule et je vous en suis si reconnaissante.
Reconnaissante d'être aimée quand vous le méritez et que l'amitié est réciproque. Quelle folie, petite Rita!
C'est que, dis-je en lui prenant le bras, vous ne savez pas combien dans l'isolement une seule marque d'intérêt fait plaisir, que dire alors d'une sincère amitié? Il m'est arrivé d'être tout attendri en moi-même parce qu'un fournisseur m'accueillait comme une vieille connaissance. Des miettes sont quelque chose dans la vie, je vous assure. Et une affection comme la vôtre n'est pas une miette. Vous aurez mieux que des miettes, mieux qu'une amitié, peut-être même avez-vous pu...
Elle s'arrêta et nous nous regardâmes un instant, comme si, de nos lèvres entr'ouvertes, allaient s'échapper nos secrets de jeune fille. Mais, d'un commun accord, la promenade se continua en silence. Jamais pensée secrète n'avait été si près de se livrer. Et le soir, dans la solitude de ma chambre, je songeais avec surprise que les affections les plus sincères n'entraînent pas certaines confidences. L'un de mes secrets ne m'appartenait pas, mais elle. Je ne savais que penser. Avant de me quitter, elle me dit en riant «
Figurez-vous, Rita, que M. S. a demandé ma main. »
« Oh, est-il tout à fait stupide ?»«
Il ne se croit pas stupide du tout, il a 120 000 francs de rente. »
Sur ce mot profond, elle me quitta. De loin, je lui criai «
Vous n'êtes pas influencé ?
Soyez tranquille, je vise plus haut. »
Oui, visez très haut, visez à l'étoile.
L'étoile, vous la voyez?
Et vous aussi, je crois.
Elle me répondit par son joli rire, et je la vis disparaître dans le chemin ombragé qui conduisait aux iris.
L'aimait-elle ?